vous êtes proche de nos cœurs aussi. C'est une bénédiction d'adorer le Seigneur avec vous. Je crois que je voyage beaucoup, je suis dans beaucoup d'églises, mais je crois que c'est celle-ci que je préfère. Je reviendrai quand vous voulez. Oui, de pouvoir célébrer la table du Seigneur avec vous. Un jour, nous serons tous avec le Seigneur. Tous les frères et sœurs du monde entier, on va se rassembler autour du Seigneur et on va célébrer ça une dernière fois. Mais en attendant, ça, il n'y a pas mieux que ce qu'on a fait, hein, que le Seigneur bénisse. Vous savez, un autre nom de la table du Seigneur, c'est la communion. Et la communion, c'est un mot qui est un peu utilisé à tort et à travers pour dire beaucoup de choses. Je sais que vous le savez, c'est pas le fait de participer à la table qui nous met en communion avec Dieu. C'est parce qu'on est déjà en communion avec le Seigneur que nous pouvons participer à la table. Hein, la communion, cette table n'est pas un sacrement, elle nous apporte rien. Elle nous fait souvenir de ce que nous avons. Et la communion, c'était une chose que nous avons en tant que frères et sœurs. Nous en parlons beaucoup. Et parfois, parce qu'il y a toujours de la nourriture à côté de la communion, donc on pense que c'est la nourriture qui fait la communion. Mais c'est pas vrai, hein. C'est la communion. Et c'est important de nous entretenir. Et ce matin, nous allons nous entretenir, prendre le risque de nous entretenir sur le sens de cette communion que le Seigneur rend possible. Vous savez, si on remonte dans l'histoire, donc l'Église primitive, eh bien, vous connaissez le récit, comment ça a commencé, hein, avec le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres, et puis ensuite ils sont sortis dans la rue, ils ont commencé à prêcher, et on dit ce Jésus que vous avez crucifié, eh bien finalement c'était votre sauveur. Hein, ce Jésus par lequel nos péchés peuvent être pardonnés. Et tout d'un coup, il y a eu tant de monde qui tout d'un coup, ils ont compris que celui qui faisait ses miracles, celui qui rendait la vue aux aveugles, celui qui ressuscitait les morts, celui qui a pu nourrir les 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, finalement, c'était le Sauveur. Et tout d'un coup, certains se sont rendus compte. Et tout naturellement, eh bien, ils sont arrivés au temple, le temple où ils allaient toujours, mais cette fois-ci, ils vont au temple pour une autre raison. C'est pour la communion ensemble. Il y avait quelque chose qui les avait unis. Et ce n'était pas le fait qu'ils appartenaient et qu'ils étaient enfants d'Abraham qui les a rassemblés. C'était le fait que Jésus était leur sauveur. Et tout d'un coup, là, à Jérusalem, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Ce n'est pas parce que, à cause de leur descendance, ce n'est pas à cause de leur généalogie, ce n'est pas parce qu'ils ont quitté leur religion et puis ils sont rentrés dans le judaïsme qu'ils étaient attirés par le temple, mais c'est qu'il y avait une œuvre qui s'est faite dans leur sein et qui leur a donné ce désir de venir ensemble. Et ils se réunissaient. Bon, après, vous vous rendez compte que tout d'un coup, tout ce monde vient, et oui, Jésus-Christ, mais après, la persécution est arrivée, et bien sûr, avec la persécution, tout d'un coup, on commence à se poser la question, on aimerait bien savoir qui sont les vrais frères et qui sont les faux. Parce qu'il y en a toujours, quand tout va bien, il y a plein de monde. Hein. C'est comme quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y a plein de monde qui sont sortis avec eux. Et qui finalement étaient des épines dans leur côté. Hein, donc, et très rapidement aussi dans l'Église de Jésus-Christ, tout d'un coup il y a du monde qui se joint. Et alors, c'est un problème de l'Église primitive, mais c'est aussi un problème de nos jours. Hein, là où il y a une croix, il y a toujours du monde. Mais est-ce que ce sont tous des frères? Hein, est-ce que ce sont tous frères et sœurs en Jésus-Christ? Et dans l'Église primitive, bien sûr, ils se sont posé la question, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Et alors, bien sûr, nous nous souvenons des paroles de Christ, hein, dans Matthieu 16, quand il parle, il dit, je bâtirai mon Église. Et justement, il dit, et il parle à Pierre, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, Et sur ce roc, hein, je change de mot, je ne dis pas pierre, parce que dans le grec, c'est deux mots différents. C'est pétros et pétra. Donc, tu es pierre, tu es un caillou. Et sur ce roc, donc la roche, je bâtirai mon église. Et que les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Et donc, ce roc, c'est quoi? C'est qui? Eh bien, pour l'Église de Jésus-Christ, ce roc, eh bien, c'est la parole de Dieu inspirée et la parole incarnée. La parole inspirée, la Bible. La parole incarnée, Jésus-Christ. Et c'est ça la base hein, de l'Église de Jésus-Christ. C'est sur cela que tout va être construit. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens 3, parce que vous savez que dans l'Église primitive, il y avait les apôtres, et l'un des principaux rôles des apôtres, c'était justement de recevoir de l'Esprit Saint, parce que Jésus a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, il va vous dire le reste. Moi, je ne peux pas tout vous dire, vous n'êtes pas prêt à le recevoir, mais lui vous dira le reste. Et donc, l'un des rôles des apôtres, c'était justement de transmettre à l'Église l'enseignement de Dieu, la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu, et tout a été révélé, afin qu'après leur mort, eh bien, voilà, il n'y avait plus rien. Tout était complet. La révélation était complète. Et donc, vous êtes en 1 Corinthiens, chapitre 3, et je vais commencer à lire au verset 9. C'est le verset 10 qui m'intéresse. Verset 9, il dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Avec Dieu, c'est déjà fou, c'est extraordinaire, hein, d'être avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, c'est Paul qui écrit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, il dit, il y a un fondement qui a été posé. C'est le fondement. Un architecte toujours prévoit le fondement qui va être suffisant pour maintenir l'édifice. Et donc, il dit, je pose le fondement. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Et il dit, là, vous ne pouvez pas toucher. Ensuite, après, vous construisez dessus, sur ce fondement. Hein, pas à côté. Hein, vous connaissez l'histoire du Jésus a dit que c'était un fou, celui qui a bâti sur le sable, sans fondement. Mais il a dit que celui qui a bâti sur le roc, eh bien, c'est une maison qui demeure, qui résiste. Et si nous voulons avoir une œuvre qui résiste et qui soit pérenne, eh bien, il faut qu'elle soit posée sur un fondement sûr, clair. Hein. Jésus-Christ incarné, Jésus-Christ, la parole inspirée. Et alors, ce fondement, Paul dit, je l'ai posé. Les apôtres ont été fidèles, ils ont posé le fondement. Maintenant, il a dit, c'est à vous de construire dessus. Et je ne vais pas développer ce passage-là, parce que ce qui m'intéresse, c'est cette communion que nous allons avoir. Et je vais lire aussi un autre passage dans Éphésiens, chapitre 2, et au verset 20. Éphésiens 2, 20 vous dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Éphésiens 2, 20. Il a dit donc que le fondement, hein, les prophètes, l'Ancien Testament, on le garde, hein, c'est pas, hein, on n'a pas mis de côté l'Ancien Testament, on préserve l'Ancien Testament, et il dit, et les apôtres, donc le Nouveau Testament, et ça c'est le fondement. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'était à cette époque-là, c'était une pierre qu'on choisissait, on ne prenait pas n'importe quoi. et c'était une pierre qui était bien carrée, et parce que c'est elle qui déterminait les trois dimensions de la maison. Hein. C'est la droite, la gauche et le haut, hein, la largeur, longueur et puis la hauteur. C'était, tout était aligné sur cette pierre-là, c'était la pierre angulaire. Et l'église de Jésus-Christ, bien sûr, elle doit être alignée sur Jésus-Christ. Hein. Hein, donc le maçon qui pose les pierres, il surveille toujours la pierre angulaire et il aligne à partir de là, hein, il tire ses traits à partir de là, tout. Et dans l'église de Jésus-Christ, c'est exactement de cette manière-là. Et c'est comme ça que nous voulons construire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié cette rencontre jusque-là, parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu. Mais alors, au fur et à mesure que la persécution se développait, les croyants se dispersaient, et puis tout le monde n'avait pas des textes bibliques à lire, et puis après, il y a des gens qui, bien sûr, des faux, et alors, comment reconnaître ? Et dès l'origine, hein, vous regardez dans Actes chapitre 2, dès l'origine, dès qu'ils se rencontraient, eh bien, nous voyons que les chrétiens, hein, alors ils n'avaient même pas un bâtiment, ils n'avaient même pas de cantique, ils n'avaient rien du tout, hein, ils sont tous rassemblés là. Et qu'est-ce qu'il nous dit au verset 42 ? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais il y a une partie importante, c'était l'enseignement des apôtres. Hein, c'est cette base, c'est la fondation. Et finalement, pour l'église conquérante, l'église persévérante, pour l'église permanente, eh bien, c'est seulement sur la parole de Dieu. Et c'est facile de dire, parce qu'on a des Bibles, on les a facilement, ici en France, heureusement. Mais c'est pas juste une question d'en avoir. Et, j'ai déjà discuté avec des gens, ils disent oui, j'en ai un sur le chevet à côté du. Oui, mais ouais, tant qu'il est fermé, il t'apporte rien. Hein, c'est comme à dire j'ai de la nourriture dans le frigo. Ben, tu peux mourir de faim devant ton frigo. Ça suffit pas. Hein, c'est vous dire oui, mais j'aime bien beaucoup la parole, tout ça. Oui, moi aussi j'aime bien les crèmes glacées qui sont dans le frigo. Oui, mais si ma femme ne m'en donne pas, hein, c'est pas pareil. Hein. J'ai une épouse qui m'en donne largement. Je suis obligé même d'aller faire du sport pour m'en défaire. Voilà, mais il dit, nous avons besoin de connaître ces fondements, de les recevoir. Et comment est-ce que nous allons savoir qui est vraiment un chrétien ? Hein, parce que là, je vous regarde tous, vous êtes tous beaux. Hein. J'en vois pas un qui est pas beau. Hein, là, je cherche. Je me vois pas, donc c'est très bien. Mais vous savez, mais comment reconnaître ? Et alors, très tôt dans l'Église primitive, c'est développé, parce que vous savez, c'était une Église persécutée, hein, donc ils n'avaient pas de bâtiments, ils n'avaient pas des archives, ils n'avaient pas des musées, ils n'avaient pas des endroits, des bibliothèques, ils n'avaient pas tout ça. Hein, c'est la parole, hein, ça passait d'un à l'autre. Et très tôt dans l'Église primitive, eh bien, c'est développé ce qu'ils ont appelé la confession des apôtres. La confession des apôtres, et donc ils essaient de déterminer l'essentiel, vraiment l'essentiel de l'essentiel de ce qu'il fallait croire pour être enfant de Dieu. Parce que tout le monde n'avait pas beaucoup d'enseignements et quelques-uns avaient très peu, mais comment reconnaître ? Et c'est donc il y a cette. Alors ça remonte dans les premiers, le 3e, 4e siècle, je crois que c'est arrivé même dans le sud de la France avec le christianisme, donc vers le 4e siècle. Mais là, et puis ça, c'est aussi appelé le symbole des apôtres. Je vais vous le lire, hein, vous allez écouter ce que ça dit, c'est ce qui nous vient de l'histoire de l'Église, hein, et c'est essentiel. Et tout à l'heure, je vous ai entendu réciter fondements, hein, c'est ça, il faut connaître les fondements de l'Église. Hein. Mais là, je lis le texte traduit en français, il dit « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli et est descendu aux enfers le troisième jour » et ressuscité des morts. Il est monté au ciel, Il est assis à la droite du Père, le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, donc l'ensemble des chrétiens, le corps de Christ, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ils avaient réduit tout ça à l'essentiel. Est-ce que tu crois? Ça permettait de distinguer entre quelqu'un qui venait du judaïsme, ça permettait de distinguer un païen, ça permettait de... C'est vraiment l'essentiel et vous avez entendu, hein, en fait c'est ce que vous entendez tout le temps. C'est pour savoir qui est un frère. Hein, c'est pas tous ceux qui portent des croix qui sont des chrétiens. Hein, les tomates sont rouges, mais tout ce qui est rouge n'est pas tomate. Ça peut être un camion de pompier. Hein. Donc, c'est comment savoir. Hein, très vite, quand on rencontre quelqu'un, la chose dit, bon, est-ce que tu es chrétien? Ça vous dit rien du tout. L'autre, il répond ce qu'il veut. Parce que tu ne sais pas quelle est sa définition d'un chrétien. Hein, mon grand-père, il s'appelait Paul. Ah, mais oui, mais bon. Tu peux être chrétien, même si ton père s'appelait Mohamed. Hein, c'est pas ça qui fait la différence. Qu'est-ce que tu crois? C'est notre confession de foi. C'est ce que nous croyons qui nous détermine. Ce n'est pas notre nationalité, ce n'est pas nos origines, ce n'est pas le prénom qu'on a, ce n'est pas le fait qu'on a été élevé d'une certaine manière. Ce n'est pas ça qui détermine le fait qu'on soit chrétien ou pas. Maintenant, en France, on ne veut même pas qu'on porte des signes pour dire qu'on est chrétien. Ils n'ont rien dit sur les poissons, ils ne savent pas ça. Mais comment reconnaître qu'on est chrétien? C'est la confession de foi. C'est la confession. Qu'est-ce que tu crois? Qui est Jésus pour toi? Et puis, qu'il me dise. S'il est chrétien, très vite, il saura quoi dire sur Jésus. S'il n'est pas chrétien, il va dire, bon, ben, c'est un homme de bien, c'est un prophète, c'est un... il a fait des bonnes choses. Et tout de suite, moi, dans ma tête, je me dis, j'ai compris. Toi, tu as un champ d'évangélisation. Et il faut que je te convainque que d'abord tu as besoin du Sauveur, et puis ensuite je te présente le Sauveur. Hein, c'est très vite. Mais c'est important pour chacun de nous, déjà, de se poser la question, pourquoi est-ce que je suis chrétien? C'est très bien d'être à l'église de Saint-Denis, mais ça ne suffit pas. Hein, ça ne sera pas une réponse valable. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est le credo. Et pas le fait d'en réciter un, mais c'est vraiment de le croire. Hein? Et quand on le croit, quand on croit quelque chose, ça change ma vie. J'ai apprécié beaucoup tout à l'heure les réflexions, comme quoi c'est pas juste une question d'invoquer le nom du Seigneur, mais c'est de vivre pour lui. Bien sûr, il y a peut-être pour nous, on ajouterait, et vous l'avez récité tout à l'heure, hein, on est obligé de dire aujourd'hui que la parole de Dieu, hein, la Bible, est verbalement inspirée de Dieu et qu'elle a la seule autorité en matière de foi et de pratique. Hein, c'est elle qui décide comment on se comporte, même si c'est permis en France, c'est ce que la Bible dit, qu'importe. Hein, il y a plein de choses qui sont permises, vous pouvez... plein de choses qui sont permises, mais c'est pas une question de si c'est permis par la société. Qu'est-ce que dit la Bible sur le sujet? Et nous, on vit selon la Bible, hein, et on se comporte selon la Bible. Bien sûr, vous vous rappelez quand j'ai lu Acte 2. 42, il disait, et bien sûr, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, donc ça veut dire qu'ils se retrouvaient ensemble, hein, puis bien sûr, dans la fraction du pain, ce que nous avons fait tout à l'heure, et puis aussi dans la prière. Et c'est sûr que c'est prier avec quelqu'un qui n'est pas un frère, mais il vaut mieux prier tout seul, Hein, lui, avec lui, il faut, on doit lui parler du Seigneur. On ne peut pas prier avec lui. On ne peut pas prier avec quelqu'un qui n'a pas Jésus comme sauveur. Hein. Et alors, finalement, c'est sur quelle base que nous pouvons avoir la communion. Le signe entre nous, que nous sommes frères et sœurs, je donne trois mots. Le mot « vie », le mot « vérité » et le mot « présence ». Parlons de présence du Seigneur. Comment est-ce que le monde reconnaît que nous sommes les enfants de Dieu? Il nous dit, Jésus a dit, c'est lorsque vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est leur signe pour les gens du monde. Laissez-moi mettre juste une petite parenthèse là. Vous savez, parfois les gens du monde, ce sont nos propres enfants à la maison. Ils n'ont pas encore reçu le Seigneur. Et ils sont en train de nous observer. Et eux, ils nous voient pas seulement quand on est à l'église, hein, ils nous voient quand on est à la maison. Et eux, ils disent, ils parlent bien, mais... Et donc, il dit, le signe pour nos enfants qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, et le signe, donc le monde, et ceux qui sont dehors, le signe, pour savoir, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres, la manière dont on se comporte. Déjà, papa avec maman, et puis après, c'est avec les autres frères et sœurs. Mais les trois mots clés que je propose sont d'abord la vie qui nous anime. Bien sûr, il est évident pour nous hein, que seuls ceux qui ont placé foi en la personne de Jésus-Christ, hein, Christ mort et ressuscité, eh bien, ont accès à cette vie que Jésus-Christ donne. Parce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Hein, il est la vie. Hein, Jésus, on connaît très bien ce verset, hein, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Il l'a maintenant, hein, il a la vie éternelle. C'est pas la vie comme ça, naturelle, tout le monde l'a. Hein. Il y en a même des incroyants qui ont une meilleure santé que moi. Mais la vie éternelle, ça, on l'a par le biais de la naissance. Et Jésus a pris du temps pour discuter avec Nicodème, hein, et pour lui dire que il faut une nouvelle naissance. C'est pas parce qu'il y a des gens qui se rassemblent et qui trouvent agréable d'être ensemble, hein, c'est pas l'association qui fait la communion. Hein, c'est pas parce qu'on a créé une association, on s'est donné un but et puis on a tous signé que tout d'un coup il y a communion. Pas plus que dès que vous trouvez 11 personnes, vous avez une équipe de foot. Il faut plus que ça. Et donc c'est le fait de Nicodème Jésus parlait à Nicodème, il lui dit Nicodème, il dit normalement tu devrais savoir ces choses, mais bon je vais t'expliquer quand même. Il dit tu sais, à moins de naître de nouveau. Tu n'as aucun moyen d'avoir part au royaume de Dieu. Impossible. Tu peux désirer, tu peux aspirer, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tant que tu n'es pas né de nouveau, tu dis, oh, j'aimerais tant être dans le royaume du Seigneur. Oh, j'aimerais, oh, c'est... Il dit, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu n'es pas né de nouveau, il dit, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne peux pas faire partie du royaume de Dieu. Tu n'as pas la vie. Et ce royaume de Dieu, c'est une caractéristique, c'est une vie nouvelle. C'est un endroit où on vit autrement. C'est une vie qui est animée par autre chose. Et c'est à chacun de se poser la question, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un moment? Et peut-être que vous êtes dans l'église et puis tout le monde croit que vous êtes au Seigneur. Peu importe ce que les autres croient. Vous aussi, qu'est-ce que Dieu croit de moi? Est-ce qu'il me reconnaît comme un de ses enfants? Il connaît ses brebis, mais est-ce qu'il me connaît moi? Bien sûr. Et vous savez, il faut se poser la question, parce que dans Matthieu, il nous dit, il y a des gens qui vont dire « Seigneur, Seigneur !» Et puis il dit « Moi, je ne connais pas. » Il dit, oui, mais on a fait des choses en ton nom, on a fait des cultes, on a chanté des cantiques, on a mis de la musique, on a mis toutes sortes de choses en ton nom. Il dit, je ne connais pas. Ça ferait bizarre, hein. Tout d'un coup, vous vous retrouvez comme ça, il dit, moi, je croyais. Je m'appelais même prophète devant les gens. Et tu ne me connais pas. C'est un choc terrible. Mais vous savez, il faut se poser la question. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Et vous savez, c'est pas grave, et j'ai déjà rencontré des personnes qui, pendant longtemps, toute l'Église, et ils ont même été baptisés et tout. Et après, tout d'un coup, ils ont dit, mais... Non, non. J'ai appris le vocabulaire, j'ai appris le comportement, j'ai vécu selon les traditions, j'ai intégré l'Église, mais parfaitement. Mais j'ai jamais reçu le Seigneur Jésus dans mon cœur. Écoutez, continuez pas comme ça, prenez pas ce risque. Le Seigneur, il peut venir à n'importe quel moment. Et puis, ce serait dommage qu'ils disent, je sais que tu... c'est bien que tu étais à l'église de Saint-Denis, mais je ne te connais pas. Oui, mais il demande le pasteur Albert, il me connaît. Il dit, mais moi, je ne te connais pas. Et vous savez, est-ce qu'il y a un moment où j'ai vraiment ressenti que j'étais pécheur, que dans mon état, hein, à un moment où j'ai pas mis la faute sur les autres, ouais, mais la famille, la société, j'ai pas de chance, et pour survivre, il fallait que je fasse ceci, cela, que je vive de cette manière-là, sinon je m'en sortais pas, et tout ça, je comprends. Et le Seigneur, il dit rien sur tout ça. Il dit seulement, est-ce que c'était mal? Est-ce que c'est quelque chose qui me déplairait? Oui, mais il y a pire que moi. Ah non, non, ça c'est pas de la repentance. Il y a pire que moi, c'est pas de la repentance. Ou bien c'est la faute des autres, et puis ils m'ont provoqué, et puis j'ai pas été à l'église, c'est parce que c'est plein rempli d'hypocrites, et puis dans le monde, il n'y en a pas. Alors, tu vas aller où? Et même si tu es trouvé sur une île tout seul, il y aura un hypocrite. Le Seigneur, il dit... Il y a un besoin, et c'est un manque de nos jours, c'est la repentance. C'est presque un mot. Vous regardez dans le dictionnaire, mais il y a des dictionnaires qui n'ont même pas le mot maintenant. Ils croient que c'est un mot dissuet. Mais c'est le fait où je reconnais. Et comme je viens devant le Seigneur, dans un sens, je viens devant sa croix et dis Jésus-Christ. Maintenant, je comprends pourquoi tu t'appelles Jésus. Parce que tu es mort pour moi. Moi. Et tu l'aurais fait que pour, si c'était que pour moi. Tu es mort sur la croix. Et je peux être guéri par tes meurtrissures. Mais tu attends que je demande. Eh bien, là, je te demande. Et si vous avez du doute, tu dis, je crois que oui, mais je ne suis pas sûr. Écoutez, il vaut mieux... demander deux fois que de rater complètement. Et dire, Seigneur, je veux être sûr. Si un homme, Jésus dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est seulement ceux qui sont dans le royaume de Dieu qui sont citoyens de ce royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu, ce sont tous les vrais croyants, jusqu'à la fin. C'est ça le royaume de Dieu. Et il dit, tu ne peux pas rentrer sans la foi. C'était vrai dans l'Ancien Testament aussi. Et c'est vrai, c'est par la foi qu'on a la vie. Et il dit, voilà. Et quand il y a la vie, tous ceux qui ont la vie, ils ont communion ensemble. Hein? Vous mettez des cailloux ensemble, un sac de cailloux, et il n'y a pas de communion entre eux. Il n'y a pas de vie. Mettez des frères et sœurs, même de nationalités différentes, de langues différentes, très vite, il y a quelque chose qui se passe entre eux. Parce qu'il y a la vie. C'est une belle chose. Et comme je vous disais, j'ai pu voyager à différents endroits, et c'est extraordinaire qu'on se sent toujours bien avec les frères et sœurs. Il y a quelque chose, on sait qu'on a quelque chose. Il y a le sang de Christ entre nous. Il y a la vie. La deuxième chose, c'est la vérité. La vérité, c'est essentiel à la communion. C'est pas parce qu'on a mis 10 personnes dans un sac qu'il y a la communion. Hein. En fait, il y aurait le contraire, je pense. Mais la communion, c'est lorsqu'on partage la vérité. On a la vérité en commun. La vérité, quand il dit, c'est la vérité, hein, pas une vérité. Et dans notre monde, si vous avez fréquenté les universités ou les lycées et tout ça, ils n'aiment pas les vérités absolues. Hein. Pourtant, 2 et 2, ça fait toujours 4. Et moi, je crois que c'est absolu, non? Même dans toutes les langues et dans tous les pays. L'eau, c'est H2O, n'importe où. Hein. Après, ils disent, mais il n'y a rien d'absolu. Tu te rends compte, le monde, s'il n'y avait rien d'absolu? La vérité, et il y a des vérités spirituelles aussi. Tout comme il y a des vérités dans la nature, eh bien, il y a des vérités spirituelles. Et il faut les connaître, il faut connaître. Et Jésus a dit, on l'a cité tout à l'heure, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. Et la communion dans le corps de Christ, c'est basé sur la vérité. Donc, c'est dur, quand on se retrouve autour d'une même vérité, on est en communion. Si on commence à rassembler des bouquins, puis lui là il amène un auteur de chez son pays, puis l'autre il amène de là-bas, puis un autre philosophe et tout ça, il n'y a pas de communion. Il y a une dispute peut-être, il y a une discussion, mais il n'y aura pas de communion. Hein, c'est la vérité de Jésus-Christ. Et la vérité, c'est celle qui nous a été révélée par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que Jésus a promis d'envoyer. Et la première vérité, c'est que Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Hein, c'était la première chose que les apôtres... Hein, c'est quand je rencontrais quelqu'un, la première chose, je veux lui présenter Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et quand on le reçoit comme Sauveur, il devient le Seigneur. Vous savez, et la vérité, il faut être clair, la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Hein, ce n'est pas l'enseignement de son Église. Hein, dans notre Église, nous, on croit ça. Bon, ben, ça fait une communion entre vous, hein, mais il y a un problème. Il y a les vérités essentielles. Et c'est pas la confession de foi du charismatique ou des presbytériens ou des baptistes qui est la base de notre communion. Et il y a beaucoup d'autres chrétiens qui ont peut-être pas exactement la même confession de foi, mais qui croient que Jésus-Christ. À Fréjus, on se trouve à la porte à côté, il y a une autre église. Hein. Et quand ils sont arrivés, bon, c'est sûr pour les gens du dehors, les gens du monde, ils disent, mais ben, si c'est un Dieu, les deux chrétiens, pourquoi ils sont pas ensemble? C'est sûr que c'est délicat comme ça. Mais pour ceux qui sont dans l'église, je leur disais, écoutez, ce sont des frères. Ce sont des frères. Il y a certaines choses qu'ils font un peu différemment, mais ce sont des frères. Et on les reconnaît comme frères. Et on les salue comme des frères. Et on prie pour eux comme des frères. Et on les rend service comme des frères. Hein, on a un baptiste.